Donc, le but, c'est d'arriver à recréer des services du troisième type sans qu'il y ait de société derrière. Aujourd'hui, les services du troisième type, c'est basé sur du cloud. Le cloud, on se dit c'est le nuage, c'est machin, et en fait, c'est faux. C'est vraiment l'architecture client-serveur des années 70. Donc, vous avez les serveurs d'un côté, le client de l'autre. Et tout le monde accède au même serveur. Le but, et donc ce serveur appartient forcément à quelqu'un. Alors que vraiment le logiciel s'exécute chez vous et que le serveur ne sert qu'à stocker les données. Et le but, ce serait d'arriver à avoir des services sans avoir de société derrière. Du coup, on pourrait imaginer l'émergence de services libres. Les données, on peut les stocker à plusieurs endroits. Soit on demande à chacun d'avoir son propre serveur, mais ça demande une prise de conscience des gens, ça demande un effort technique, ça demande... Ça veut dire que vous avez un ordinateur tout le temps allumé chez vous, et ça veut dire que vous pouvez y accéder depuis votre téléphone ou depuis l'ordinateur extérieur, ou que vos amis peuvent accéder à votre ordinateur depuis l'extérieur. Mais ça a des contraintes. Ça veut dire que vous devez toujours avoir un ordinateur allumé chez vous et brancher Internet. Mais ça, je n'y crois pas. Ça s'appelle l'auto-hébergement. Et l'autre solution, c'est... Alors, on va s'en rapprocher. On va s'en rapprocher. L'autre solution, ce serait que tout ordinateur connecté à Internet stocke un petit peu des données des autres. En termes différents, je vais parler... On va parler de cloud collaboratif. Chacun met un petit peu de ressources et chacun se sert des ressources des autres. Juste pour le stockage, pas pour le traitement. Le traitement de l'information, il se fait toujours côté client. Mais le stockage se fait chez les autres, on ne sait pas chez qui. Il est stocké avec suffisamment de redondance pour supporter les coupures de courant, les connexions d'Internet, tout ça. La redondance ? Oui, mais c'est pas grave. En fait, la seule personne qui a la clé pour déchiffrer cette donnée, ça reste celui qui a posé cette donnée. Vous posez une donnée, vous la chiffrez au moment où elle quitte votre ordinateur, elle reste chiffrée à la destination. Quand vous utilisez n'importe quel autre service aujourd'hui sur Internet, la communication peut être chiffrée, mais de l'autre côté, les données seront en clair. Parce que de l'autre côté, ils ont besoin d'être exploités. Et puis surtout, comme les utilisateurs sont distraits, des fois ils perdent leur mot de passe. S'ils perdent leur mot de passe, on doit pouvoir leur permettre de récupérer. À partir du moment où il y a une possibilité de récupération du mot de passe, ça veut dire que les données sont en clair quelque part. Voilà. Avec ce système-là, il n'y aurait pas de possibilité de récupération de données. Si vous avez perdu votre mot de passe, vos données, c'est fichu, vous n'y aurez plus jamais accès. Bon, mais c'est le prix à payer pour avoir 100% de vie privée. Ça a plusieurs avantages. Internet souffre aujourd'hui de plusieurs problèmes. Il souffre des menaces sur la neutralité du net. Vous avez entendu parler ? La neutralité du net, ça vous dit quelque chose ? Ça veut dire que les fournisseurs d'accès qui vous feront le lien entre vous et le fournisseur de service, il a le droit de dire, lui il passe plus vite, l'autre il passe plus lentement. Et du coup, oui, c'est la priorisation du trafic en fonction de la source et de la destination. Non, c'est pas ça. C'est la vitesse de transfert entre deux points. Et en fait, les fournisseurs d'accès, parce qu'ils ont un rôle public, par exemple, Orange, il va dire, moi j'ai 20 millions de clients en France, si toi, YouTube, tu veux accéder à mes clients, 20 millions de clients, c'est quand même pas mal, si tu veux y accéder dans des bonnes conditions, moi je reçois mes abonnements de mes 20 millions de clients, mais toi, il va falloir que tu me payes aussi si tu veux y accéder à eux dans des bonnes conditions. Voilà, il y a eu ça avec Free à un moment. Alors, effectivement, ceux qui ont les moyens, ils vont payer pour avoir des clients dans des bonnes conditions, mais ceux qui n'ont pas les moyens de payer, ils ne pourront pas payer. Et ils vont être ralentis, et donc c'est un frein à la concurrence. Ça veut dire qu'un nouvel arrivant n'aura pas les moyens de concurrencer quelqu'un qui a déjà de l'argent et qui est déjà bien établi. Ça va contre l'intérêt de l'utilisateur. Donc, en fait, l'intérêt de l'utilisateur, c'est de préserver la neutralité du net. Le deuxième problème, ce sont ces services du troisième type, on y revient, c'est que ils ont tous intérêt à vous emprisonner parce qu'ils vivent de vos données. Ils n'ont pas envie que vous alliez ailleurs. aujourd'hui, si vous avez un profil sur Google+, il ne va pas communiquer avec votre profil Facebook. Et il ne va pas non plus communiquer avec Twitter. Ce sont trois réseaux sociaux complètement différents. Ils ne vont pas communiquer les uns avec les autres. Par opposition à ça, si vous prenez le mail, par exemple, vous pouvez être à la poste, chez Gmail, chez GMX, vous écrivez de l'un à l'autre, les mails passent très bien. Ça respecte un protocole commun et on n'a pas besoin d'être sur le même serveur pour accéder, pour s'échanger des données. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et ce n'est pas le cas sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont distincts et... ça ne me concerne pas. Et donc, on essaie de vous emprisonner pour continuer à donner vos informations au même silo. C'est ce que j'appelle les silos. On essaie de vous emprisonner dans les silos. Ça, c'est le deuxième problème d'Internet aujourd'hui. C'est les services de troisième type qui vivent de vos données cherchent à vous emprisonner. Et le troisième problème d'Internet aujourd'hui, c'est que cette centralisation des services rend la surveillance et la censure très simple. Il suffit de demander au fournisseur de services, donne-moi les données sur telle personne, et le fournisseur de services, il les donne.
Tout à l'heure, vous avez dit des hommes, alors que des
Mais si quelqu'un ne vous met pas de la publicité, s'il ne vous demande pas d'argent, ça veut dire qu'il se rémunère sur vos données. En gros, les trois modèles que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est infaillible. S'il n'y a ni publicité et qu'il ne vous demande pas d'argent, c'est qu'il collecte vos données personnelles. Voilà. C'est aussi simple que ça.
Bon. Vous avez des add-ons sur Firefox pour éviter les mouchards?
Oui, c'est ce que j'en ai parlé tout à l'heure.
Je les utilise moi, donc par page, des fois, il y a 10, 15, 20 mouchards.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a des mouchards. Alors, comme je le disais tout à l'heure, les mouchards servent finalement à optimiser le placement publicitaire. Ce qui a du sens, parce que... si on devait avoir autant de publicité que dans les années 90, la page, elle serait toute comme ça, avec Kiki au centre, et plein de publicité autour qui flash. On pourrait plus lire.
Et ça ralentirait considérablement l'ordinateur.
Et ça ralentirait, en plus. Quoique les mouchards, ils prennent eux-mêmes du temps, parce qu'il faut un petit peu de traitement d'information et tout. Bon. Mais, c'est pas la question. On revient à la question de l'éthique de la publicité. Si vous accédez à un site gratuitement, c'est pas juste. On doit rémunérer d'une certaine façon. On rémunère soit avec de l'argent, soit avec de l'attention à regarder les pubs, soit avec nos données personnelles pour que lui ensuite il puisse les revendre. Voilà. Donc on peut bloquer tous ces trucs-là, il y a les moyens techniques de bloquer et la publicité et les mouchards, mais est-ce que c'est éthique de le faire? Là on rentre dans une autre discussion.
Parce que tout de suite, il y a le salaire.
Voilà. Et donc la solution, c'est de permettre l'émergence de services de troisième type, mais qui soient des services libres, c'est-à-dire qui soient développés par des gens qui ont envie de les faire pour rendre service aux gens, sans qu'ils aient la contrainte d'avoir un serveur de l'autre côté. La contrainte d'avoir un serveur, ce n'est pas tellement une contrainte de coût, c'est une contrainte de responsabilité. Quand vous détenez des données personnelles sur les gens, vous en êtes responsable. Avec un système réparti comme celui dont je viens de vous parler, qui est celui que j'imagine, la responsabilité, elle n'est plus dans les mains d'une société. Le seul qui est responsable, c'est celui qui a mis les données en ligne, parce que ceux qui la stockent, ils ne sont pas responsables. Ils ont la donnée chiffrée. Ils n'en savent rien. Et il y a des développeurs qui aujourd'hui viennent me voir parce qu'ils ont entendu parler de cette idée, qui me disent « Moi, ça m'intéresserait parce que je voudrais développé un service, j'ai besoin de stocker des données personnelles, mais je n'ai pas envie de le faire parce que ça m'expose trop juridiquement à la responsabilité que j'ai en le faisant. » Voilà, donc il y a des gens qui ont envie de ça. L'idée, si vous voulez prendre des notes, ça s'appelle Peer Storage, P-E-E-R comme peer-to-peer, storage comme le stockage, et c'est .org, peerstorage.org. Voilà, c'est un site en cours de développement. Aujourd'hui, je parle beaucoup de cette idée, les moyens techniques, ils existent, il y a du développement à faire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai à peu près à 25 ans, disons, j'ai développé un logiciel qui était techniquement reconnu. Il faisait plein de choses très bien. Mais il n'a pas trouvé de clients. C'était un logiciel de 3D. Un logiciel qui faisait de l'image de synthèse, de l'animation. Voilà. Et aujourd'hui, je me suis dit, plutôt que de tomber dans le même type d'échec où je vais faire quelque chose et ensuite je ne vais pas avoir d'utilisateur, je vais essayer de faire l'inverse. Je vais essayer de me demander comment est-ce que je vais arriver à avoir des utilisateurs et ensuite démarrer le développement. Le but, c'est que l'utilisateur ne se rende même pas compte qu'il utilise ces technologies. Le but, c'est de ne pas passer par les comités de standardisation parce que ceux-là, ils sont spoofés de gens de Facebook, de Google, d'Apple et d'Amazon qui vont tout faire pour ralentir l'émergence d'un standard de ce type-là. En fait, l'émergence de ce type de standard, elle va contre les intérêts des fournisseurs d'accès qui n'ont plus de levier pour menacer la neutralité du net. Elle va aller contre les géants d'Internet, comme contre les GAFA, qui se font de l'argent grâce aux données des gens. Et elle va aller contre l'intérêt des États, qui sont là finalement pour surveiller et censurer. En fait, plus mon idée va devenir publique, plus ça va prendre, et plus mon risque d'accident va augmenter. Mais c'est plutôt une bonne chose. Bah parce que je vais contre les intérêts des uns et des autres. Donc ma vie est en danger.
Si demain vous faites une overdose, vous ne consommez rien là.
C'est ça. C'est un peu ça. Ouais.
D'accord. Et je voudrais juste vous poser une petite question. Quand on vient d'accepter des financements européens,
oui.
Est-ce que pour vous, ça ne pose pas un problème de conflit d'intérêts? Est-ce que l'Europe, ou ceux qui financent maintenant, ne peuvent pas leur demander de stocker ou de leur transmettre des données, des métadonnées?
Alors ça, de toute façon...
Qui les finance?
De toute façon, les États ont toujours un pouvoir de le faire, mais à ma connaissance, Quant ne stocke pas des choses. Après,
je suis étonné que l'Europe ait financé.
Il s'agit. C'est une question de souveraineté. C'est-à-dire que l'Europe se rend très bien compte qu'être dépendant d'une puissance étrangère, c'est pas bon pour nous, pour notre souveraineté, et ils veulent développer un truc en interne.
D'accord.
C'est vraiment une question de souveraineté, c'est-à-dire.
D'accord.
Voilà. Des questions, je vous ai tous perdu.
Je me demande si à Auroville,
qui s'appelle
le département informatique.
Qui ça?
Auroville.
Auroville? Oui. Ah oui.
Et s'ils ont un département informatique,
de toute façon, les collaborateurs sur Internet, ça se trouve effectivement. On peut créer une communauté sur Internet et des gens qui ont envie de donner de leur temps, de leur énergie pour un projet qui leur paraît pouvoir changer le monde. C'est à Auroville, ailleurs, je ne vais pas aller démarcher les gens un par un. Je vais faire marcher le bouche à oreille. Voilà, je compte sur vous, vous avez le nom de Pierre Storage. Ça renvoie vers moi après. C'est un projet que j'ai proposé chez Mozilla. Ils n'ont pas été, ils n'ont pas voulu le prendre parce qu'ils ne voulaient pas prendre le risque. Effectivement, il y a du développement à faire, il y a des risques à prendre. Développement, ça veut dire codage, ça veut dire être devant son ordinateur et écrire des lignes de code, écrire du logiciel. Voilà. C'est du temps. C'est passer du temps, c'est risquer du temps d'ingénieur, c'est risquer de l'argent. Voilà. Et donc Mozilla, pour l'instant, ils se concentrent uniquement sur Firefox, ils font bien ce qu'ils font, etc. Faut voir également que Mozilla, ils ont Firefox d'un côté, mais de l'autre côté, ils s'intéressent également à des problèmes plus politiques comme effectivement la surveillance, la censure, la neutralité du net. Et dans les walled gardens, ou les silos, comme je les appelle, donc le problème de données personnelles, ils s'y intéressent, mais Firefox ne veut pas les résoudre. Effectivement, mon idée pour les résoudre, mais comme Firefox, pour l'instant, c'est la seule chose que nous savons faire, et la seule chose. En fait, Mozilla, quasiment, ne fait que Firefox, et parle aussi d'autres choses, mais surtout ne fait que Firefox. Et ils n'ont pas voulu s'engager dans le projet.
Pourquoi est-ce que j'arrive pas à trouver une adresse précise sur le réacteur cache? C'est une énergie à partir de l'énergie cosmique. Ça fonctionne.
L'énergie cosmique.
Mais
pourquoi on ne fait pas? Bah, j'en sais rien.
Vous regardez
oui,
le SHE, ça fonctionne. Le réacteur à thème, ça fonctionne à condition d'être déjà branché sur un circuit électrique. Le réacteur cache n'a besoin de rien.
D'accord. K-E-S-H-E.
Le réacteur ATEM, H-A-K-E-M, il faut déjà que ça donne de l'énergie, mais il faut déjà que ça soit branché sur un circuit électrique. Je crois que pour 500 balles, le réacteur cache, si on branche deux machins, deux prises, il faudra. Pas une
multiple,
je sais pas quoi. Ça rajoute de l'électricité sur le machin.
Je sais pas, je vais regarder, les autres vont regarder, ils ont pris des notes et tout. Moi je vous ai parlé de l'idée et Peut-être que je trouverai des contributeurs et que dans 10 ou 20 ans, on verra se développer des sites libres sans société derrière. Voilà. Bon, on ferme la boutique.
Voilà, il me reste à vous remercier pour votre persévérance, ce que nous avons là, votre présence. Et donc, eh bien, entrons dans la résistance contre le Linky. Voilà, c'est le début aujourd'hui, peut-être pour certains d'entre vous. Et,
on ne voudrait pas avoir un.
Et pour d'autres, c'est une longue aventure, mais on va essayer d'accélérer les choses, on va dire.
Eh bien, je vais couper.